bonjour à tous et merci de nous avoir accordé cette interview. C'est le tout premier de ce journal, le journal de Pôle Adapteur. Servir, sourire, opinion traitée, c'est notre devise. Le journal de Pôle Adapteur est un journal qui parle du quotidien des stagiaires, permet aux lecteurs de découvrir des personnes, des personnalités avec des techniques qu'elles se sont outillées pour une insertion et intégration au sein de la société. Aujourd'hui, nous retrouvons ici dans le tout premier numéro de notre journal le directeur de formation tertiaire du centre de formation et de réinsertion professionnelle, Monsieur Roy Chevalier. Autour de la table, nous avons Thierry, bonjour.
Bonjour, Ruben. Bonjour, Rangit. Bonjour, Monsieur le directeur.
Bonjour à vous.
Ainsi que tous les lecteurs et auditeurs.
Merci. Et Rangit, bonjour.
Bonjour, Ruben. Bonjour, Thierry. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux lecteurs. Et bien sûr, bonjour, Monsieur le directeur.
Bonjour. Bonjour Monsieur Chevalier, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, la première question, pouvez-vous vous présenter de façon succincte pour nos lecteurs et lecteurs?
Bien évidemment, en tout premier lieu, déjà je veux vous remercier également de l'initiative que vous avez prise. C'est tout nouveau ici, c'est la première promotion qui prend ce genre d'initiative qui est à la fois intéressante pour vos collègues de formation, mais qui peuvent aussi intéresser les autres sections et également les enseignants du CFAP. Donc à ce titre-là, je trouve que c'est quelque chose d'important pour nous tous. En me présenter, je vais être aussi rapide, hein, parce que je pense que ce n'est pas forcément le cœur de la discussion que nous allons entreprendre ensemble. Pour ma part, je vais faire une petite carte d'identité, un petit curriculum vitae de ce que je suis. J'ai 52 ans, j'ai constitué ma carrière surtout autour des problématiques de ressources humaines, puisque j'ai été directeur adjoint des ressources humaines dans un organisme que vous connaissez sans doute qui s'appelle la GFIP pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai été consultant sur les problématiques d'organisation et de management pour enfin me présenter au CFRP où j'ai été recruté il y a maintenant cela 2 ans en tant que directeur des sections. On peut appeler section tertiaire, mais qui englobe à la fois des formations au métier du tertiaire, mais aussi formation mécanique cycle, réparateur de vélo, donc qui sont en dehors du secteur tertiaire du monde du travail, mais qui sont également dans cette direction de transition.
Et pourquoi ce changement? Et vous avez d'ailleurs choisi le CFRP?
Alors, je me suis présenté au CFRP pour plusieurs raisons. Même si je ne suis pas un professionnel de la formation, il y a dans ma fonction de direction des activités de management, des activités organisationnelles et qui sont liées aux problématiques de ressources humaines. Même des ressources humaines du CFRP, mais il y a aussi une équipe enseignante, une équipe de spécialistes qui gravitent autour des stagiaires, qui constituent une équipe qu'il faut animer. Ils sont là pour vous faire progresser. Et c'est à ce titre que ça m'intéressait. Et comme ce n'était pas forcément le domaine de prédilection, le domaine que je connaissais, je trouvais que l'aspect nouveauté pour moi dans mon parcours professionnel était un plus dans ma carrière.
Pouvez-vous nous dire en quoi consiste l'adaptation aux formations?
Alors, la section adaptation, le pôle adaptation, a pour objectif de permettre aux stagiaires que nous accueillons de maîtriser des outils adaptés. À ce titre, nous avons des enseignants qui forment des stagiaires aux outils bureautiques de manière à ce qu'ils soient le plus autonomes dans leur vie professionnelle, bien évidemment, mais aussi dans leur vie quotidienne, puisqu'aujourd'hui, l'ordinateur, l'informatique fait partie de notre quotidien. De plus en plus, quand on voit les générations qui viennent, elles maîtrisent de mieux en mieux cet outil qui leur permet de communiquer, qui leur permet par la suite de travailler. Donc l'objectif premier, je dirais, c'est de vous faire acquérir cette autonomie-là que nous voyons, que nous avons peut-être des facilités, mais que vous aussi, vous pouvez bien évidemment acquérir, mais de manière plus adaptée. Donc les enseignants qui sont des enseignants spécialisés sont là justement pour vous apprendre à acquérir cette autonomie avec la maîtrise de ces outils adaptés. Deuxième volet de cette formation, c'est également de construire un projet professionnel. Parce que c'est bien évidemment d'avoir un outil, de pouvoir communiquer, de pouvoir se mettre en relation, mais vous êtes tous évidemment majeurs ici, vous êtes tous en situation de pouvoir travailler, vous êtes en recherche d'emploi potentiellement, et pour cela, il faut avoir une idée de ce que vous voulez faire professionnellement dans la vie future. Et pour cela, nous sommes là ici, au CFRP aussi, pour vous aider à construire ce projet professionnel avec les enseignants, avec l'équipe enseignante, mais aussi avec la cellule insertion professionnelle qui dispose donc, depuis cette année de 2 personnes qui vous aident à construire ce projet, à essayer de déterminer à la fois vos souhaits, bien évidemment, professionnels, mais aussi vos capacités et les possibilités d'emploi sur le marché du travail.
C'est tout un accompagnement.
C'est tout un accompagnement et ça fait partie en fin de compte de notre travail d'essayer de faire émerger vos compétences, de les consolider et conforter de manière à ce que vous puissiez les défendre lorsque vous serez face à un recruteur.
On peut prétendre à combien d'années de cette formation ?
Alors, normalement, la session adaptation, c'est sur une année. Normalement, en un an, vous avez suffisamment de temps pour acquérir un certain niveau. Après, il se peut que il trouve davantage de difficultés parce qu'il part beaucoup plus loin et ça nécessite davantage de temps à consacrer à cette formation. Donc, exceptionnellement, de manière dérogatoire, on peut éventuellement faire 2 années en adaptation. Mais ça reste tout à fait exceptionnel et j'insiste sur le caractère exceptionnel et dérogatoire puisque normalement cette section a été conçue comme étant un programme devant constituer un programme de formation sur une seule année.
Est-ce que quand vous dites 2 années, c'est 2 années maximum ?
Oui, de toute façon c'est 2 années maximum et je dirais même qu'administrativement de toute façon nous ne pourrons pas aller au-delà de ces 2 années puisque la MDPH refuserait là, d'accepter qu'un stagiaire fasse 3 ans au sein du CFRP dans la même section.
D'accord. Quelle est notre part de chance sur le marché de l'emploi ?
En fait, je dirais qu'elle dépend exclusivement de vous, de la capacité que vous avez à absorber l'ensemble des enseignements que l'on vous donne et à vendre auprès de recruteurs qui vous intéressent vos capacités, votre potentiel, votre caractéristique, votre individualité également, votre personnalité. Et c'est ça qui fait finalement toute la force de votre profil professionnel. Il est vrai aussi qu'en adaptation, c'est une formation généraliste. Donc, quand vous sortez de cette formation-là, vous n'êtes pas des spécialistes. En revanche, vous êtes évidemment beaucoup mieux armé pour trouver un emploi, plutôt dans le secteur tertiaire, essentiellement sur la bureautique, le français, la mathématique, dans le cadre de cette section. Donc, vous êtes mieux armé, mais il va de soi que c'est une formation généraliste et que si vous voulez pousser un peu plus loin vos recherches, ce n'est qu'une première étape, une première marche vers d'autres formations qui pourraient à ce moment-là vous faire acquérir une véritable spécialité.
Alors, comment est organisée la préadmission et sur quels critères les stagiaires sont retenus ?
Alors, la préadmission, c'est une journée où l'on convie les candidats à passer un certain nombre d'entretiens et de tests. Pour ma part, je reçois chaque candidat avec la psychologue du CFRP. On a un entretien, on essaye de cerner le parcours du candidat que nous avons en face de nous, ainsi que ses motivations et son degré d'autonomie, qui est un des critères quand même importants que nous devons cerner. Et puis un certain nombre de tests qui concernent le français, la bureautique, le braille, pour ceux qui le pratiquent ou sont venus le pratiquer. Ça, c'est pour l'emploi du temps de cette journée. Les critères qui sont retenus, c'est, comme je vous le disais, l'autonomie déjà que connaît la personne handicapée. C'est vrai que ça va être très difficile pour nous si la personne ne connaît strictement rien du tout à l'outil bureautique, si elle a des difficultés énormes en matière de déplacement. également, nous n'avons malheureusement pas les ressources suffisantes pour apprendre en l'espace d'une année à cette personne-là d'être autonome. Puisque nous sommes dans un collectif, toutes les formations sont collectives, et si nous avons de trop grands écarts entre chaque stagiaire, il n'est pas possible pour nous de répondre parfaitement à l'ensemble des stagiaires. En revanche, il est vrai que si nous avons des critères à retenir, on ne demande pas non plus aux gens d'être totalement autonomes, bien évidemment, puisque nous sommes là aussi pour leur faire acquérir cette autonomie. Pour ceux qui sont un peu trop éloignés de ce point de vue-là, on les redirige vers d'autres organismes, comme la Fondation Sainte-Marie, par exemple. Et pour ceux dont on estime qu'ils ont ce critère suffisant, on regarde où ils en sont, sur du point de vue bureautique, du point de vue du français, point de vue du langagerie, oral, s'ils ont d'autres notions qui leur permettent en tout cas de pouvoir être en collectif pendant une année et de pouvoir suivre un enseignement sur une base de 35 heures par semaine. Parce que 35 heures, c'est comme un travail, c'est lourd. Quand on n'a pas forcément l'habitude de s'imposer un rythme, ça peut être parfois très difficile. Et bien évidemment, l'objectif, c'est pas de tester les personnes sur quelques semaines puis de leur dire après d'avoir voir, désolé, on ne peut pas vous garder. Bien évidemment, l'objectif, c'est de les garder jusqu'au bout et de vous faire tous progresser. Et à ce titre-là, on essaie d'évaluer, par rapport aux critères que je viens d'énoncer, la capacité de la personne à pouvoir suivre cette formation de fin août jusqu'à mi-juillet.
Si cette personne veut constater qu'elle a la motivation, mais qu'il lui manque l'autonomie, vous le dirigez vers la Fondation Sainte-Marie ou les autres dont vous êtes associé, comment est-ce qu'elle pourrait revenir ?
Alors, la motivation, vous l'avez tout à fait raison de l'évoquer et d'insister là-dessus. C'est vrai que la motivation, c'est aussi un des critères fondamentaux. Je ne l'ai pas cité et pourtant il est important. Et parfois, même si l'autonomie est faible, malgré tout, si la motivation est très forte, ça peut contrebalancer justement l'inconvénient que peut avoir le profil du candidat. Pour moi, s'il y a la volonté et la capacité, mais une faible autonomie, la personne peut quand même être acceptée. Au cas où, comme vous l'indiquez, la personne manquerait réellement d'autonomie et ne pourrait pas être acceptée, c'est pour ça que nous préférons non pas l'écarter définitivement, mais plutôt lui conseiller de se préparer. Et à ce moment-là, se préparer, c'est comme je le disais, la diriger vers d'autres organismes qui vont pouvoir, d'une manière d'ailleurs plus individualisée, la suivre, la faire progresser de manière à ce qu'elle puisse se présenter l'année suivante à nous pour éventuellement rentrer au CFAP.
Il faudrait qu'elle postule pour pouvoir revenir.
Oui, en revanche, c'est toujours vraiment des candidatures volontaires. Donc c'est des candidats qui se présentent à nous. On ne va pas les chercher auprès des MDPH, par exemple. C'est toujours des personnes qui sont passées par la MDPH, qui ont émis le souhait de suivre une formation, et la MDPH les oriente vers nous.
Comment trouvez-vous la session d'adaptation de cette année ?
Alors, j'ai pas un recul énorme, puisque, comme je vous l'ai dit, ça fait que 2 ans que je suis ici. Vous êtes finalement la 3e promotion que je rencontre, une promotion d'adaptation. C'est vrai, ce qui vous caractérise, vraisemblablement, ça tient en 2 mots, qui serait la solidarité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, on va dire forcément de nouveau, et que je ressens plus fortement cette année. Et la maturité. Vous avez une maturité qui est plus forte que celle que j'ai pu connaître les 2 années passées. Je pense justement à ce titre que c'est à la fois beaucoup plus agréable pour l'équipe enseignante, pour l'équipe pédagogique, pour tous ceux qui travaillent autour de vous, mais c'est aussi un atout pour vous. Vous pouvez davantage fonctionner en équipe. Et c'est vrai de pouvoir s'épauler, de pouvoir s'entraider, d'avoir des discussions qui sont des vraies discussions d'adultes, participe aussi à cette formation. Et ça ne peut être qu'un atout pour vous supplémentaire par rapport à ce que nous pouvons vous offrir.
Pensez-vous à l'avenir près d'autres sections ?
Ah ben oui, bien sûr. Et je dirais presque que c'est une question de survie, puisque comme je le disais sur le plan du matériel informatique, que ça évolue très vite, mais le monde du travail évolue et évolue très très vite. Si on reprend les 30 dernières années, on a vu des métiers disparaître, d'autres s'effacer, encore d'autres émerger. Tout ça bouge à un train qui est parfois d'ailleurs difficile de suivre. Et on essaye mieux qu'on peut d'adapter justement à la fois d'ailleurs le contenu des formations existantes, mais aussi de créer d'autres formations. Ce fut le cas il y a 2 ans de la section mécanicien cycle, que nous avons créé, qui a fonctionné doucement la première année, mais qui aujourd'hui fait le plein, et qui est très demandé quand on regarde l'ensemble des candidatures que nous recevons. Et puis, nous travaillons actuellement sur la continuité d'une formation créée cette année, qui est la formation préparatoire informatique Linux, donc qui est un système d'exploitation informatique, qui est mis en place à titre expérimental cette année, qui va découvrir un monde, pour ma part d'ailleurs je connaissais peu, mais qui est un monde riche, qui concerne les métiers de l'informatique. Donc, bien évidemment, on n'est pas sans ignorer que l'informatique prend toute sa place dans le monde du travail, et qu'il y a d'ailleurs, pour le coup, beau débouché pour ceux qui sortiraient de cette formation pour poursuivre une formation par ailleurs un peu plus élevée, et fait qu'ils viendraient vers le BTS ou vers des formations de niveau bac, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Donc on réfléchit continuellement sur une nouvelle formation pour préparer au nouveau métier. Quand je dis « on », d'ailleurs citer une personne en particulier, puisque c'est essentiellement Najib Lamuage, qui est donc chargé d'insertion, qui travaille sur cette réflexion justement des nouveaux métiers, et qui est le moteur en tout cas sur cette question-là. Comme je vous le disais, on a créé Mécanicien Cycle il y a 2 ans, on a créé cette année la préparatoire informatique, et on est actuellement encore en pleine réflexion pour créer une nouvelle formation en fonction des métiers. On ne réfléchit pas forcément sur la formation, on réfléchit plutôt sur les métiers qui nous semblent être tout à fait accessibles pour les personnes déficientes visuelles et qui sont des métiers vraiment très dynamiques, qui connaissent une dynamique d'emploi. Et à ce moment-là, à partir de ce constat que l'on peut faire, là, on imagine des formations qui permettraient à nos stagiaires de pouvoir accéder à ces métiers.
Je rebondis sur la question sur les réponses que vous nous avez données. Mm-hmm. Est-ce que du coup, c'est une nécessité aussi pour le centre de faire des nouveaux formations, etc. Comme on a compris, on peut évoluer, etc. Mais est-ce que des formations sont en danger?
Alors, il n'y a pas de formation en danger. Il y a simplement des formations qui devront à un moment donné s'éteindre. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que si on constate que nos stagiaires ne trouvent pas d'emploi correspondant au métier auquel on les forme, nous n'avons aucun intérêt. Nous n'avons aucun intérêt en tant que centre. Alors vous avez encore moins d'intérêt, évidemment, à venir candidater chez nous. Ce serait tout à fait logique. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous avons une réflexion sur la formation employée administrative et d'accueil, formation ERA, qui nous semble aujourd'hui pas non plus trop correspondre au marché du travail.
Et les raisons?
Les raisons, c'est qu'aujourd'hui, on prépare normalement des personnes qui seraient amenées à être, on va dire, secrétaires administratives, agents d'accueil. Mais quand on regarde les offres d'emploi, quand on discute avec les entreprises, elles nous disent toutes que ce type de métier aujourd'hui, alors soit ne plus trop, et soit ne plus à niveau. Comme vous le savez, le certificat auquel on prépare les stagiaires est un certificat de niveau 5, de niveau CAP. Or, les secrétaires, voire même d'ailleurs les agents d'accueil, sont en côté au minimum niveau bac. Donc nous avons un problème aujourd'hui, mais qui n'est pas lié du tout d'ailleurs, je dirais, à la déficience visuelle. En fait, c'est lié en fait au titre lui-même. Il y a des personnes voyantes qui préparent également ce titre et qui connaissent exactement le même problème de débouché professionnel. Et la difficulté, c'est quand même de répondre au marché de l'emploi. Hein. C'est pas nous qui allons changer le marché de l'emploi, mais c'est bien le marché de l'emploi qui nous change. Donc il faut être toujours à l'écoute de ce marché de l'emploi et donc de répondre aux exigences. Donc si ce que nous pouvons constater depuis maintenant pas mal de temps se confirme, nous allons donc devoir réfléchir à une autre forme, pas un autre format concernant cette formation, parce qu'on estime malgré tout qu'il y a des emplois à trouver, soit à réfléchir justement sur de nouveaux métiers, plutôt d'ailleurs dans le tertiaire, et qui pourraient correspondre à des stagiaires du niveau actuel. Donc ça, c'est une grosse réflexion, et comme je le disais, ça ne concerne pas nous, CFR, que nous, CFRP 20 OI, mais ça concerne tous les centres de formation, puisque nous sommes en contact, bien évidemment, avec, par exemple, le centre Forja ou le centre Guino, qui sont également des centres qui accueillent des stagiaires aux déficients visuels, et qui connaissent la même problématique et la même réflexion, ce qui nous amène d'ailleurs à réfléchir ensemble.
Pourquoi vous dites que ça peut mettre par exemple combien de temps? Parce que vous êtes en grosse réflexion, plus ces chiffres comme moi, une année.
pour retrouver de nouvelles informations.
Oui, par exemple, où remplacer Comix, ça c'est un...
peut être rapide à partir du moment où on a l'idée, puisque si, comme je vous parlais de mécanicien cycle et je vous parlais de la préparatoire informatique, en l'espace d'un an, on va le créer. Ce qui va également venir là, pour l'année prochaine, c'est le BTS en alternance, système d'information et d'optimisation, qui concerne la maintenance de réseau.
Et ça va amener aussi peut-être à devoir prendre le formateur, peut-être, ou ça peut se faire avec le formateur.
Si on se dirige en tout cas vers l'informatique, oui. C'est vrai qu'on, parce que là, on ne sommes plus dans le domaine de la bureautique, qui est l'utilisation d'outils, mais de l'informatique. Là, nous sommes vraiment dans les systèmes. Donc là, ça nécessite évidemment des expertises, des compétences, des spécialités que nous n'avons pas forcément ici. Ce qui ne veut pas dire que, bien évidemment, que les formateurs qui sont actuellement en poste n'ont plus de travail. Je peux les rassurer s'ils écoutent l'interview. mais en tout cas, c'est vrai qu'il va falloir sans doute aussi se diversifier sur les fils des formateurs. Mais je dirais que ça vient en second plan. La principale préoccupation, quand même, c'est de se dire quels sont les métiers aujourd'hui qui offrent de réels débouchés, qui sont en nombre, auxquels on peut répondre. Ça, c'est déjà ça. Et ensuite, évidemment, on voit comment on s'équipe, pour reprendre votre terme de tout à l'heure, comment on s'équipe en matériel, à quelles compétences on fait appel pour pouvoir former nos stagiaires au mieux, quels locaux on prévoit. Donc ça, il y a tout cet aspect logistique qui est évidemment important, hein, qu'il ne faut pas minimiser, mais qui vient évidemment en second lieu. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais c'est simplement... C'est une réflexion qui vient à la suite, effectivement, de la première réflexion qui est quel métier, vers quel métier on forme un stagiaire.
Avez-vous un conseil à nous donner ?
Moi, j'en ai pas qu'un. j'en ai plusieurs. Bon, si je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que de toute manière, la réussite de la formation, elle est en vous. Nous, on vous apporte des outils. On vous donne aussi des astuces, soit des conseils, des recommandations. On espère aussi vous apporter la motivation, en tout cas vous de la renforcer plutôt, parce que la motivation, vous l'avez. Le premier conseil, c'est de vous écouter aussi. Nous, on vous offre un programme de formation, on vous offre des conditions de travail. Maintenant, c'est à vous de vous en saisir et par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à ce que vous allez acquérir, réfléchissez à ce que vous pouvez faire, à ce que vous avez envie de faire, surtout aussi à ce que vous avez envie de faire. Après, ça n'est pas toujours facile de mettre en lien la motivation, le souhait et le métier. Mais je pense que si on veut vraiment s'épanouir dans sa vie, soit personnel ou professionnel, il faut quand même aimer ce que l'on fait. Et le travail, c'est quand même trois quarts de notre temps. Notre temps debout, sinon on dort, mais sinon on a notre temps. Donc c'est quand même plus qu'important et c'est ce qui fait quand même que notre vie peut être riche parce que on apprend des choses quand on travaille, on se sent utile, on peut avoir des relations avec d'autres personnes. Finalement, on est aussi en formation. C'est une belle école de la vie aussi, le travail. Donc il faut savoir s'écouter parce que il n'y a pas de métier moins bon qu'un autre, mais il y a des métiers qui seront très appréciés par certains et beaucoup moins par d'autres. C'est tout à fait logique, mais ça correspond aussi à la fois à ses compétences, bien évidemment, mais aussi à sa personnalité. Donc écoutez-vous et je pense aussi que c'est une manière aussi de pouvoir se donner davantage de chances de trouver un emploi, une formation qui nous plaise.
Souvent, ils ont connu la marginalisation, la discrimination, que ce soit au sein de la famille ou de la société. Pour lutter contre les maux, certains parmi elles ont pris leur courage à bras le corps pour participer au développement socio-économique de toute une nation, les personnes malvoyantes et non-voyantes. Bien sûr, c'était le premier numéro de votre émission, bien évidemment, et du journal de la section pour la date. Et nous avons reçu M. Roy Chevalier, le directeur de la formation tertiaire du Centre de formation et de réinsertion professionnelle. Merci, M. Chevalier.
Merci à vous. Je répète, c'est une très belle initiative et je trouve d'ailleurs que vous êtes courageux, tout ce temps que vous êtes en session d'adaptation, parce que ce n'est pas facile aussi de se remettre en question et de refaire une formation quand on est adulte. Donc bravo à vous.